Le Festival Chromatique en est à sa 10e année de réalisation et s'est bien installé à l'usine C. En plus d'offrir cette année une programmation que je pourrais qualifier d'élargie, hein, ce qui correspond tout à fait au mandat de Chromatique, je suis en très bonne compagnie pour poser quelques questions à Alice Bouzet, qui est la commissaire en chef du volet d'exposition et de bien d'autres volets, j'en suis persuadée, dans le cadre du Festival Chromatique, donc 2019. Bienvenue, Alice Bouzet.
Merci de me recevoir. Cette année, comme vous l'avez précisé, c'est la 10e édition. Donc, on a voulu vraiment marquer le coup et offrir une programmation riche au public. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel pour le volet exposition à deux commissaires extérieurs en plus du commissariat chromatique. Donc, on a fait appel à Art Contemporary Club, qui est un collectif de commissaires composé de Juliette Marzano et Raphaël Cormier, et au Letterbet, la galerie qui se situe à Saint-Henri. Donc on a fait appel à eux justement pour un petit peu enrichir le contenu de l'exposition et faire découvrir des artistes vers lesquels on serait peut-être pas forcément allé de nous-mêmes. Donc ça enrichit vraiment le contenu, ça apporte un petit plus à l'expo et c'est vraiment intéressant de collaborer avec d'autres personnes qui ont des visions différentes en termes de commissariat sur l'exposition. On a également un partenariat avec Galerie Blanc et la SDC du village, donc Galerie Blanc qui est une galerie ouverte qui se situe sur Sainte-Catherine, qui a l'immense honneur d'accueillir, on est vraiment très chanceux, le duo d'artistes Toilet Paper Magazine, formé par Maurizio Cattelan et Pier Paolo Ferrari, qui sont des artistes italiens. L'exposition est visible en tout temps pendant un an. Elle est vraiment, vraiment magnifique.
Allez, l'exposition, écoutez, elle est réjouissante et haute en couleur. Quelle belle installation. En fait, c'est une installation à grande échelle hein, qui habite toute la Galerie Blanc. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, tous les murs ont été wrappés de vinyle coloré. Puis, il y a également des photos qui sont visibles dans des boxes lumineuses. Donc, l'exposition est aussi bien visible de jour comme de nuit. C'est ça qui fait la spécificité du lieu. Et il y a également une construction qu'on pourrait qualifier de maison un peu penchée, dans laquelle on peut rentrer. Donc, c'est assez immersif aussi.
Tout à fait. Ce n'est pas la tour de Pise, mais c'est la maison penchée de la Galerie Blanc.
C'est ça.
Alors, c'est tout à fait italien, un concept italien. Écoutez, avant qu'on parle plus précisément de ces commissariats qui sont vraiment, vraiment d'intérêt, alors je les ai visités vendredi soir lors de la soirée d'ouverture. Si vous me présentiez un petit peu le mandat, Chromatique se veut assez un projet assez expérimental, hein?
Oui, donc...
laboratoire artistique, en quelque sorte, créatif, artistique, est-ce que c'est le cas?
Tout à fait, ouais, c'est vraiment le terme. On se qualifie comme ça. Nous, on cherche toujours à faire, par le biais de l'exposition, des conférences et tout ce qu'on propose autour du festival, faire découvrir les jeunes artistes, la jeune création, jeune scène créative montréalaise et pas que d'ailleurs. On essaye de faire découvrir aussi cette année. On a beaucoup d'artistes qui viennent de Toronto, quelques artistes de New York.
Des artistes établis. Hein?
Oui, on a justement cette année, on a voulu confronter. C'est toujours beaucoup plus riche de confronter des artistes émergeants à des artistes établis.
Ça, c'est intéressant, hein, le dialogue qui peut s'établir entre deux statuts d'artistes.
Tout à fait, ça apporte un vrai dialogue, ça enrichit les propositions. Puis aussi pour les artistes, c'est un vrai moment d'échange et un partage d'expertise. Et on trouve ça vraiment intéressant dans le développement de la carrière des jeunes artistes, notamment, de pouvoir être au contact d'artistes un petit peu plus établis qui ont une carrière déjà plus développée.
Oui, tout à fait. Alors, donc, vous voulez faire appel un petit peu à l'émergence, la relève artistique, la confronter à des artistes établis, mais vous avez aussi, je pense, un mandat de réflexion. Cette année, particulièrement cette année, vous proposez vraiment un tout nouveau volet, enfin, un volet vraiment beaucoup plus élargi, qui est celui de, j'imagine, de conférences, hein, que vous avez en grand nombre. Ça, c'est une nouveauté, hein?
On a toujours eu ce volet qui s'appelait Pro auparavant et qui était condensé sur deux journées. Cette année, on a voulu offrir la possibilité aux spectateurs d'accéder plus facilement aux conférences en éclatant ça sur toute la semaine et en proposant une
programmation du matin jusqu'à la fin de toute la journée durant.
Exactement. Et les billets sont disponibles à la carte et plus par passe, ce qui fait que les gens peuvent vraiment cibler ce qui les intéresse et aller plus dans la qualité que dans la quantité. Je trouve ça vraiment plus intéressant. Et on a vraiment essayé cette année de rassembler et de ramener les artistes et le contenu artistique et des réflexions un petit peu plus en lien avec le monde des arts dans la programmation des conférences.
C'est ça, je voyais les sujets quand même hautement d'actualité. Comment vous êtes orienté pour vos choix de conférences?
Alors, c'est Pénélope Auvray et Calixte qui ont fait la programmation des conférences. Ils ont travaillé très dur pour ça. Ils ont essayé justement d'être vraiment en lien avec les sujets d'actualité sur le monde de l'art, sur la culture.
Sur Internet, hein, vraiment. On oui. sait à quel point Internet est critiqué actuellement.
Tout ça, oui. Justement, oui, quel rôle peut avoir Internet par exemple, au niveau du marché de l'art, sur les artistes, quelles sont les répercussions. Donc, ça a été des questionnements de base qui ont permis de faire évoluer les sujets et pour resserrer vers des problématiques vraiment plus précises et actuelles.
Oui, vraiment, c'est très intéressant. Ça pique la curiosité au plus haut point. Vous aviez en plus intégré dans cette programmation de conférences des présentations d'artistes gratuites. Hein? Ça permet vraiment de découvrir des artistes qui exposent pour la plupart à l'UNC?
Alors, ils n'exposent pas tous, mais on a eu la chance d'avoir un talk de Pier Paolo Ferrari, qui était notre talk d'ouverture, donc qui est l'un des deux artistes de Toilet Paper du collectif. Il est revenu sur sa carrière, sur comment il avait cofondé le magazine avec Maurizio, comment il réfléchissait à l'élaboration de leurs photos. Donc, c'était vraiment très intéressant. Les autres talks, toute la semaine, sont gratuits également. On a eu ce matin Graham Patterson qui nous a expliqué son travail d'artiste.
Un artiste qui est représenté par la Galerie 3 à Québec.
Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment de la chance d'avoir pu l'accueillir pendant le festival. Et c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur la démarche de certains artistes, de savoir comment ils travaillent, quels sont leurs modes de pensée et de réflexion pour élaborer leurs œuvres.
Mais ça, c'est intéressant de pouvoir intégrer ce moment-là des conférences accessibles pour le grand public, puis de favoriser un rapprochement avec les artistes dont quelques-uns exposent. Là. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est nouveau. Là. Ça, vous n'aviez pas ça les années passées. Là.
Non, effectivement, on n'avait pas du tout cette vision-là et cette programmation-là. On trouvait ça vraiment intéressant et pertinent, comme notre mandat est aussi d'amener la culture à un plus grand nombre de personnes et d'avoir une programmation très éclectique et grand public. On trouvait ça aussi très pertinent et intéressant de permettre au public de comprendre un peu mieux comment un artiste travaille, comment un artiste élabore toute sa réflexion, comment il réalise ses œuvres, même d'un point de vue plus matériel, on va dire. On trouvait ça très pertinent et c'est vrai que le public, pour l'instant, est assez content et demandeur de ce par rapport au talk.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est peut-être un petit peu, l'usine ici est un magnifique lieu, mais un peu plus restreint que vos lieux au précédent. On dirait que vous avez une exposition un petit peu moins vaste, moins étendue, mais vous avez vraiment tout un déploiement de conférences, plus que jamais. C'est peut-être le lieu qui vous a amené à déployer autant de conférences et d'activités, parce que j'ai remarqué que c'est que trois catégories, hein, des tables rondes, présentations d'artistes et ateliers, hein.
Oui, c'est ça. On a toujours fonctionné comme ça, même les années précédentes. On a toujours eu les talks, les présentations d'artistes sont nouvelles, mais on a toujours eu le format conférence et atelier. Donc c'est vrai que la présentation d'artistes vient s'ajouter et enrichir un petit peu la programmation, effectivement, mais on est relativement sur le même schéma que les années précédentes. Cette année, on a un petit peu plus de 30 artistes.
Considérable.
C'est quand même déjà beaucoup, mais effectivement, cette année, on a voulu resserrer un petit peu ça. C'était un parti pris aussi. On voulait s'axer sur quelque chose de plus qualitatif et moins quantitatif.
Oh, c'est intéressant.
Donc, on a vraiment réfléchi à comment créer une exposition qui avait du sens, qui pouvait fonctionner, à comment créer des liens et des connexions entre différents artistes. C'était vraiment ça le but, de resserrer un petit peu la programmation artistique.
Et bien sûr, ce qui demeure, bien sûr, ce qui caractérise tout à fait chromatique, c'est l'ouverture, la nuit chromatique et la clôture chromatique, vraiment toujours aussi animée en musique et autres attractions.
Oui, tout à fait. Donc, on a la clôture, qui va avoir lieu vendredi, qui arrive, et la nuit d'ouverture qui est passée. C'est tout le temps le même schéma. On change pas trop, même si on essaie d'apporter des petites nouveautés, mais c'est DJ, projection visuelle derrière les DJ, et puis on danse jusqu'à 3 heures du matin. et au cœur de l'exposition. L'exposition est visible toute la nuit aussi. Voilà.
Fort heureusement que ça ne change pas parce que Chromatique, vraiment, est d'année en année très festif. Voilà, c'est fort apprécié. Et c'était bien le cas vendredi passé. Si on parlait maintenant du volet exposition, parce qu'il est très intéressant, trois sections. On a différents commissariats. On a le commissariat Letterbett. Je suis ravie de pouvoir voir leur proposition artistique. Peut-être nous parler un peu de la couleur que peut apporter Letterbett. C'est assez sociologique.
Le Letterbett, qui est une galerie à Saint-Henri, est principalement dans son commissariat axé sur la photo, la sérigraphie, l'illustration, tout ce qui va être média imprimé, mais pas que, mais globalement. Et là, Catherine Canac-Marquis, qui a fait le commissariat pour eux, s'est axée vers des artistes montréalais et québécois. Donc on a Alexis Hobb, Gabois, Vincent Bilodeau, Catherine Potvin, Jerry Pigeon, Laurence Philomène. Donc on a beaucoup de photographies, on a de la chance parce que c'est pas forcément des médias vers lesquels moi je serais allée de moi-même. Je suis peut-être moins attirée par la photographie dans mes choix de commissariat, donc on a vraiment de la chance. En plus, Catherine a décidé d'un thème principal pour guider les artistes qui était le renouveau et elle leur a vraiment laissé...
C'est intéressant.
C'est vraiment intéressant parce qu'elle leur a laissé totale carte blanche pour créer des œuvres et sortir un petit peu justement de leur zone de confort, on va dire. Donc Catherine Potvin, par exemple, qui fait plus de l'illustration, nous a créé un photobooth vraiment incroyable. Donc elle a créé une vraie installation. On a Jerry Pigeon aussi qui a créé une véritable installation aussi avec ses photos et qui est sorti vraiment du format papier de la photo, on va dire. On a Vincent Bilodeau aussi qui a une installation de réalité virtuelle assez immersive qui est proche de l'idée d'un jeu vidéo. Donc c'est vraiment intéressant de...
Oui, c'est le clou de l'exposition.
C'est ça, de voir comment les artistes arrivent à sortir des schémas un peu classiques, des formes, des médiums qu'ils ont l'habitude d'expérimenter pour créer quelque chose de vraiment nouveau et surprenant.
Thank you. vous nous avez présenté un peu l'exposition de Letterbet, qui vraiment est axée sur le renouveau, le changement, sur des artistes locaux. Mais c'est, l'exposition, finalement, c'est plus que trois volets, c'est quatre volets, parce que vous avez aussi l'exposition chromatique, qui est vraiment à grand déploiement, celle-ci, et qui au moins réunit au moins une... mon Dieu, je ne peux les compter présentement en ce moment même, mais qui est la commissaire de cette exposition-là chromatique? C'est vous?
Moi. Ah. Oui, c'est moi, c'est ça.
C'est la bonne personne.
Oui, donc on a de la chance d'avoir des artistes qui ont un parcours vraiment établi, comme Luc Painter et Winnie Tron, qui sont deux artistes torontois, qui ont créé une magnifique installation en vis-à-vis, qui fonctionne très bien parce qu'ils ont des travaux vraiment... similaires et des réflexions qui marchent très bien l'une avec l'autre. Donc on a deux projections, l'un pour l'un et pour l'autre, et des illustrations encadrées. Et pour Winnie, on a...
C'est un magnifique petit recoin, vraiment, c'est très intime, et on peut vraiment apprécier d'autant plus ces projections accompagnées d'images magnifiques et hautes en couleurs.
Tout à fait, et les illustrations permettent vraiment de comprendre le travail de l'artiste et de comprendre comment la vidéo a été réalisée en amont finalement, notamment pour Winnie Truong et tout son travail de paper cut et de dessin découpé. C'est vraiment
c'est
magnifique.
C'est vraiment les illustrations qui ont servi à la réalisation des vidéos.
Oui, pour Winnie, c'est ça.
Et pour l'autre?
Pour Luc, il...
Luc Painter, bien sûr.
Oui. Pour Luc Painter, il a... je pense que c'est du dessin numérique, mais tout son travail graphique d'illustration et de dessin sert de base à élaborer les visuels de vidéo.
Tout à fait. Et c'est aussi des images représentatives de d'autres projets dans lesquels il s'est impliqué, notamment dans le domaine du théâtre. Hein.
Oui, tout à fait.
Pour le cinéma.
Tout à fait. Il s'inspire notamment de scènes connues de beaucoup de films qui vont de films un peu plus grand public comme Beetlejuice, par exemple, à des films un petit peu plus pointus et précis comme les films des années 50 allemands ou ce genre de choses, années 60 même, je dirais.
Un peu art déco aussi.
Tout à fait, oui. Il aime vraiment beaucoup ce courant-là et ça se ressent énormément dans son travail.
C'est magnifique. J'ai hautement apprécié ce petit recoin et c'est bien disposé. Vous avez quand même des artistes vraiment qui ont fait, qui ont été exposés en musée, là, qui présentent un travail percutant avec une vision vraiment très particulière à leur démarche artistique. Là. Vous avez par exemple une artiste vedette qui a exposé récemment au Musée d'art contemporain de Toronto, hein, qui est une vedette.
Oui, on a beaucoup de chance d'avoir l'artiste Rajni Pereira qui est venue exposer l'œuvre qu'elle a présentée au Musée d'art contemporain de Toronto.
Donc, c'est inspiré d'une histoire, de l'histoire.
Tout à fait. Donc, il y a deux toiles suspendues et une double chaise en bois circulaire qui est vraiment monumentale. Et elle s'inspire du folklore, elle s'inspire de traditions, de religions, mais issue de tout un tas de cultures. Elle mélange tout ça et puis elle crée vraiment des pièces uniques et fortes, visuellement parlant, très colorées. Elle crée des personnages un peu hybrides. C'est vraiment intéressant.
Vous avez vraiment des bannières qui accompagnent une chaise reliée, c'est-à-dire deux sièges reliés et ornementés, sculptés. Écoutez, c'est une vision pacifiste de l'artiste là, qui est présentée à travers cette œuvre vraiment très inspirante.
Oui, tout à fait.
Très inspirée.
Tout à fait, c'est très inspirant aussi. Et la chaise est magnifique, c'est sculpté à la main. Les assises sont sculptées à la main et l'ensemble est vraiment... Ça crée quelque chose de vraiment... Enfin, c'est vraiment très fort. On a un sentiment vraiment... Il faut aller le voir.
Oui, ça nous interpelle immédiatement. C'est un autre clou de l'exposition. Et vraiment, oui, vous avez bien sûr, si on continue sur deux autres artistes vedettes, là, parce que c'est très intéressant d'en parler, ça donne envie de venir les voir de près. Vous avez aussi un autre artiste vedette, vraiment, qui s'intéresse au marais, rien de moins, qui redore l'image du marais dans son œuvre. Motomi Michi Nakamura s'intéresse au mal-aimé qu'est le marais.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance d'avoir cet artiste new-yorkais.
Écoutez, j'étais captivée. J'y suis restée là au moins une quinzaine de minutes.
Oui, c'est vraiment magnifique.
Il y avait foule durant toute la soirée de vendredi soir.
Oui, ça plaît beaucoup au public parce que c'est très contemplatif, simple d'approche, mais en même temps, ça soulève beaucoup de questions. Et on peut vraiment aborder l'œuvre de façon différente, donc avec une approche beaucoup plus naïve et esthétique, on va dire, et une approche beaucoup plus...
Oui, on n'a pas besoin d'entreprendre une réflexion sur les marais là, pour s'intéresser à l'œuvre, hein, parce que si on la présentait visuellement...
Oui, tout à fait. Il y a vraiment deux approches. Donc, il y a l'approche beaucoup plus premier degré, on va dire, vraiment très simple. Puis, à côté de ça, quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que c'est pas juste visuel et esthétique et qu'il y a une vraie démarche derrière et que l'artiste est assez engagé et a toute une réflexion autour de ces petits personnages assez énigmatiques.
C'est nous présenter visuellement à l'œuvre.
C'est du mapping, donc il y a des demi-sphères au sol et il y a des projections dessus qui évoluent pendant un certain temps et c'est en boucle. Et ce qui est projeté, ça va être des petits décors qui se transforment petit à petit en personnages qui prennent vie.
Tout à fait. Alors, c'est absolument captivant. Et il faut voir l'œuvre qui a une durée quand même d'un certain temps, là.
Ouais. Oui, l'œuvre dure un certain moment. La boucle doit durer 10 minutes, je dirais. Donc, c'est vraiment important de rester. Puis, dans tous les cas, on est tellement captivés que les 10 minutes passent très vite.
En fait, c'est tout à fait le cas. Et c'est une œuvre des plus... c'est une exposition où il y a... place à l'esthétique, hein? Tout à fait. Il y a aussi, Chromatique, c'est reconnu pour introduire du virtuel dans les propositions artistiques, dans les expositions. Et là, il y a peut-être parlé d'une œuvre là, où on peut faire une découverte avec un casque.
Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir Blake Gillet dans l'exposition Chromatique, qui est un artiste numérique qui a proposé une installation de réalité virtuelle. Cette installation permet de se confronter, on est dans un environnement un petit peu particulier quand on met le casque, et de se confronter à notre façon d'interagir en société avec les gens. La vidéo est un petit peu déstabilisante, mais c'est le but recherché. Il faut la faire parce que c'est vraiment intéressant et c'est toute une expérience.
Alors, ça pique ma curiosité au plus haut point. Je n'ai pas pu la faire parce qu'il y avait une file d'attente, mais je vais y retourner d'ici la fin du festival, absolument. On passe maintenant à Art Contemporary Club. Il y a des œuvres intégrées dans l'exposition principale, parce que l'exposition principale, il faut faire bien attention, elle est dans trois lieux. Hein? Elle est dans trois lieux. Elle est vraiment au rez-de-chaussée. Elle est au premier étage, au sous-sol, il faut pas rater les sections, hein. Mais Art Contemporary Club expose premier étage, mais aussi au sous-sol.
Oui, tout à fait. On a vraiment investi tout l'espace de l'INSEE pour ce qui est des expositions. Donc, on en a dans la grande salle, on en a dans le hall d'entrée, dans le corridor à l'étage et dans le sous-sol. Pour Art Contemporary Club, elles ont investi les loges. Donc, c'est quand même un endroit assez particulier, les loges d'artistes. Donc,
je trouve ça très intéressant.
Elles ont bien relevé le défi de créer des zones vraiment spécifiques. Je trouve que leur scénographie est vraiment réussie.
Il n'y a pas que les loges, il y a les douches aussi.
Oui, tout à fait. Un sacré défi.
Je suis restée stomaquée de voir l'œuvre concernant Mark Zuckerberg. Évidemment, si on a un petit sens critique en nous par rapport à tout ce qui se passe sur le web, les médias sociaux, on est ravis de voir, et bien sûr Facebook, on est ravis de voir cette partie de l'exposition assez critique.
Oui, elles sont donc le mandat d'Art Contemporary Club, c'est vraiment de critiquer tout ce qui va être, de réfléchir à comment Internet interagit avec les gens dans la société. Donc forcément, il y a une part de critique à chaque fois, puis toujours une réflexion très orientée, très un petit peu politisée aussi quelque part, ce que je trouve vraiment intéressant de leur part. Et leur commissariat est vraiment très juste. Tous les artistes en lien c'est cohérent. C'est vraiment... et l'installation avec Mark Zuckerberg, justement, est très drôle parce que quand on se met devant l'iPad, on a un espèce de mapping sur le visage où on se transforme en Mark Zuckerberg, ce qui est assez déstabilisant et déroutant. Donc, ça fonctionne très bien.
Oui, et bien sûr, quelques petites statues qui transforment Mark Zuckerberg. Hein, c'est un certain personnage... digne de l'époque romaine?
Oui, tout à fait. Un espèce de buste antique qui transforme Mark Zuckerberg en, comment dire, en divinité un petit peu, ou en empereur, je ne sais pas, empereur romain. Ça fonctionne bien.
Alors oui, tout à fait, c'est tout à fait cocasse et c'est une œuvre donc dans une douche, rien de moins, du duo Raphaël Cormier et Alfie Dwyer à voir. Moi, j'ai été vraiment fascinée et je trouve ça intéressant qu'il y ait cette réflexion critique un peu plus approfondie de la part de Art Contemporary Club. Ça amène quelque chose dans le contexte actuel très intéressant. Ça peut susciter une réflexion même pour le grand public. Vraiment, on terminerait peut-être avec, évidemment, on a parlé du duo à la Galerie Blanc. Peut-être nous parler un peu de ce que c'est que ce duo-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour devenir ainsi des vedettes. Là, ils ont toute une contribution en Italie.
Maurizio Catalan, déjà, avant d'être avant de cofonder Toilet Paper Magazine, est un artiste d'art contemporain très reconnu mondialement, qui a une énorme carrière et un parcours hallucinant.
Une participation notamment à la Biennale de Venise.
Tout à fait. Il me semble que sa dernière exposition a eu lieu à New York il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, assez récemment, et qu'il a décidé suite à ça de mettre fin à sa carrière d'artiste, malheureusement. Mais il continue...
Au stade de la gloire, bien sûr.
C'est ça. Et puis, j'espère peut-être qu'il reproduira des œuvres, on ne sait pas. Mais il continue quand même à travailler avec Pierre Paolo sur les éditions Toilet Paper. Toilet Paper Magazine, c'est pas un magazine, c'est plus comme une édition ou un livre d'art, je dirais. C'est vraiment des tirages à exemplaires limités, des séries limitées, des très beaux tirages. C'est très bien produit, c'est magnifique.
C'est vraiment des images qui tiennent un peu de la photo commerciale, mais aussi, je pense, de l'image surréaliste. Alors, c'est sûr que les images peuvent être saisissantes.
Oui, tout à fait. Pierre Paolo est issu vraiment de la publicité et de la photographie. Donc, on retrouve un peu cette esthétique et on retrouve le côté complètement décalé et loufoque qu'on trouve dans les œuvres de Maurizio Catalan aussi. Donc, ça crée vraiment un univers très particulier, très kitsch, très coloré et complètement absurde. C'est génial.
Vraiment, vraiment, quelle bonne idée. Félicitations pour avoir pu obtenir cette exposition spéciale à la Galerie Blanc, organisée donc par Festival Chromatique. Alors, merci beaucoup. Alors, peut-être si on récapitulait cet événement qui bat son plein, qui se termine vendredi. Il faut venir jusqu'à vendredi, chaque jour, son lot d'événements intéressants et l'exposition qu'on peut voir et revoir. Qu'est-ce que vous recommandez comme des événements incontournables d'ici vendredi?
La soirée de clôture, de venir voir l'exposition parce qu'elle est en accès libre et gratuit. On va avoir quelques terrasses, notamment une présentée par le magazine Trax, qui est un magazine axé sur la musique électronique. Et on va avoir une très belle conférence aussi co-présentée par Trax, où on aura la DJ Morales, Softcore Soft, qui fera partie des panélistes. On aura aussi une très belle conférence sur la place des femmes dans le monde de l'art.
C'est intéressant.
Ouais. Je vous recommande fortement d'y assister.
Notamment avec Caroline Monet.
Tout à fait. Voilà.
Écoutez, merci de nous avoir transmis vos incontournables. Et bien sûr, nous, on va tout inscrire sur la liste d'événements arts visuels in situ. Merci beaucoup, donc, Alice Pouzet, commissaire en chef de ce grand événement, de ce volet exposition du Festival Chromatique, finalement, qui intègre 4 expositions, rien de moins. Félicitations et bon festival.
Merci à vous.